La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
La lecture du jour se trouve dans Proverbes 7, les versets 25 à 27. Proverbes 7, les versets 25 à 27. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers les demeures de la mort.
Depuis qu'il était petit, il rêvait de devenir pasteur, fils de pasteur qu'il était. Dès l'âge de 3 ans, il voulait être pasteur comme papa. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, il se voyait déjà prêchant, visitant les malades en particulier, les personnes âgées, enseignant la parole, baptisant, ça a toujours été son imaginaire. Puis l'adolescence vient, il a son bac, il part étudier la théologie. Il réussit brillamment ses études de théologie, devient pasteur. Il exerce un ministère qui est un ministère apprécié, un ministère efficace. Et au bout de 7 années de ministère pastoral, il découvre et rencontre Jésus-Christ. C'est seulement la 7e année de son ministère qu'il est passé de la croyance, de la foi qui relève de l'idée, de la conviction, à une rencontre véritable et transformatrice. Cela peut sembler extraordinaire, dit comme cela, mais combien de croyants, parmi nous ou ailleurs, se considèrent comme croyants, se pensent comme tels, se vivent comme tels, et un beau jour découvrent qu'ils ne l'ont jamais réellement été. Ou bien découvrent qu'ils ne le sont plus, que les choses ont perdu leur sens, ou que ce qu'ils croyaient avant ne tient plus maintenant. Combien d'enfants et de nos enfants quittent l'Église, non seulement parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte, mais peut-être surtout parce que la vie de papa, de maman, des membres d'Église, peut-être la vie du pasteur, démontre bien plus qu'on connaît la Bible par cœur, qu'on obéit à des rites, qu'on a une tradition religieuse, plutôt que d'avoir une rencontre transformatrice et puissante qui change la vie du couple, qui change la vie de la famille, qui change les relations entre nous. Savez pourquoi les gens quittent l'Église adventiste quand ils la quittent? Est-ce qu'ils la quittent pour des questions de doctrine? Quelqu'un sait? Non, c'est pas ça la raison. Est-ce qu'ils la quittent parce que ils craquent devant un rayon charcuterie? Est-ce que vous savez pourquoi les gens quittent en général l'Église? Le relationnel. Des problèmes relationnels. Et pas forcément parmi les jeunes membres de l'Église, et jeunes par la foi, je veux dire. Parfois, il y a des conflits dans les Églises qui perdurent pendant des générations. Moi, j'ai vu ça. Dans une des Églises dont j'ai eu la charge, il y avait 2 familles qui, depuis une génération et demie, se tiraient dans les pattes et avaient du mal à se voir. Comment est-il possible qu'on puisse être présent dans une église depuis 10, 20, 40, 50, 60 ans et avoir un relationnel désastreux? Ou bien des couples qui fonctionnent mal? Comment est-il possible de connaître la Bible par cœur et être un piètre voisin ou un collègue détestable? Je voudrais, pour commencer à apporter quelques éléments de réponse, raconter cette histoire de 2 voyageurs qui ne se connaissent pas. Ils ont décidé de faire un bout de route ensemble, ça se passe il y a longtemps, donc il y en a un qui est un âne qui transporte ses bagages. Et tous les soirs, c'est le même rite. Tous les soirs, il prend sa brosse, il étrille son âne, il lui parle, il le caresse, et puis il l'attache avec un certain nombre de nœuds, il fait le tour, un certain nombre de boucles, et ensuite il va attacher la corde à un arbre. Et tous les soirs, c'est le même rite. Et un beau jour, ils sont en plein milieu d'une immense plaine, il n'y a pas d'arbre. Alors, le voyageur qui n'avait pas d'âne demande au premier, mais comment vas-tu faire pour ton âne? Il n'y a pas d'arbre. Il lui dit, ne t'inquiète pas, tu vas voir. Donc, il prend sa brosse, il étrille son âne, il le caresse, il lui parle, il passe les cordes, il fait les boucles, et il va, et puis il met la corde un peu plus loin. Le lendemain matin, il se réveille, l'âne n'a pas bougé d'un pouce. Je voudrais vous poser la question et vous demander, pourquoi l'âne n'a pas bougé d'un pouce? Alors, j'ai entendu quelqu'un chuchoter quelque chose. Exactement. Parce qu'il est attaché dans sa tête. La corde, en réalité, est dans sa tête. Et alors que le monde s'ouvre à l'âne, il reste attaché à l'intérieur de sa tête. Et dans la Bible, on trouve des gens qui sont attachés dans leur tête. Pensez par exemple à cette femme, la femme samaritaine, qui dans la pensée de Jésus, comme cela va être démontré par la suite, est une prophète et une missionnaire en puissance. Des villages entiers vont être convertis. Imaginez. Dans sa tête, il y a les cordes de la honte, il y a le joug du regard d'autrui, il y a la culpabilité, il y a le sentiment d'échec, autant de choses qui la ligotent et qui l'empêchent d'aller de l'avant. Les cordes sont dans sa tête. Jésus vient détacher les cordes. Saul de Tarse a, je crois, une véritable appétence. Il a un désir extrêmement fort de rencontrer Jésus-Christ. Il ne le sait pas. Il est ligoté par un formalisme religieux, par une excellence, par une forme de compétitivité religieuse qui le pousse à être un extrémiste, un intégriste, quelqu'un qui est capable de vous assassiner parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Quelqu'un qui me rappelle ce taliban dont j'écoutais le témoignage dans un reportage tout à fait passionnant et qui dit de manière tout à fait sérieuse, au premier degré, sans la moindre arrière-trace ironique, qu'avant qu'il n'arrive dans tel ou tel village, ben c'était l'apostasie générale. Les gens faisaient n'importe quoi, les hommes buvaient de l'alcool et fumaient, les femmes n'étaient pas voilées, c'était pas comme il fallait. Et puis qu'ils sont arrivés, qu'ils en ont pendu quelques-uns, ils ont coupé quelques bras, donné quelques coups de fouet, quelques exécutions publiques, et maintenant tout va bien, tout est conforme à la volonté de Dieu. Voilà comment était Saul de Tarse. Il était ligoté par son ultra-religiosité, et sur le chemin de Damas, Jésus a fait tomber ses chaînes. D'autres, comme Saül, le roi Saül, a été ligoté par peut-être son manque de confiance en lui, sa volonté de s'accrocher de manière pathologique au pouvoir, et n'ont pas accepté d'être libérés. Ils sont restés attachés et ligotés dans leur tête. Alors la question que j'oserais nous poser ce matin, c'est est-ce que notre religion est pour chacun d'entre nous un facteur d'épanouissement, un facteur de liberté, ou dans certains cas, n'est-ce pas, au contraire, une corde qui nous ligote, qui nous entrave, qui nous empêche de grandir? Et je voudrais, pour commencer le partage, évoquer le fonctionnement de notre cerveau. Il y a dans notre cerveau deux types de circuits de prise de décision. Un qui va vite, très vite, et un qui va très lentement. Les deux ont leur utilité. Prenons un exemple tout bête. Vous êtes dans la rue, il y a une barrière d'une maison qui est mal fermée, il y a un chien que vous connaissez, vous savez qu'il est méchant, qui arrive en galopant, en aboyant, l'air tout à fait féroce. Vous allez faire quoi? Oui? Si vous réfléchissez comme ça dans l'expectative, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Qu'est-ce que vous allez faire? On détale. Ou on ferme la barrière. Circuit rapide, prise de décision rapide. Maintenant, supposons que quelqu'un rentre dans l'église avec des vêtements déchirés, peut-être des piercings. On dit piercing ou piercing? Comment est-ce qu'on dit déjà? Piercing, merci. Partout. Ah, des tatouages. La totale. Si on utilise le circuit d'évaluation et de décision rapide, qu'est-ce qu'on va penser? On va juger, n'est-il pas? Est-ce que c'est ce circuit qu'on devrait utiliser? Sachant que le circuit lent, c'est le circuit qui prend le temps de peser les choses, de se renseigner, de poser des questions, d'interroger, et qui se construit dans le temps, dans la lenteur. Parfois, il est beaucoup plus facile de se référer au circuit rapide et de tirer des conclusions hâtives plutôt que d'utiliser le circuit lent et de prendre le temps de l'interrogation. Je voudrais vous donner un seul exemple. Mon meilleur ami, qui n'est pas adventiste, me raconte que son frère, ayant vu à la télévision et entendu à la radio un certain nombre d'histoires de pédophilie avec des prêtres catholiques, en veut terriblement aux prêtres, au catholicisme, à la religion en général, et dit ce sont tous des pédophiles ces gens-là. Circuit rapide. Je me suis posé pour ma part la question et j'ai pris le temps d'examiner les statistiques. Dans les statistiques, vous avez 89% des enfants qui sont abusés par des proches ou des relatifs, des parents, des papas, des mamans, des oncles, des frères, des sœurs, d'autres enfants. Et vous avez 11% qui sont agressés. Parmi ces 11%, il y a 8% des personnes qui ont autorité, alors des prêtres, des pasteurs, mais aussi des éducateurs, des professeurs, des policiers, des gens qui ont autorité, 8%, dont peut-être 2% de prêtres éventuellement, je ne sais pas. Et puis, 2-3% de divers. Vous voyez que sur la masse des enfants qui sont agressés sexuellement, les prêtres ne représentent qu'une petite fraction. Alors, je n'accuse et je ne défends personne. J'évoque juste des statistiques pour montrer à quel point, quand on prend une information de surface, on arrive à la conclusion que la pédophilie est uniquement un fait qui ne concerne que cette catégorie de population de prêtres, mais que quand on regarde les statistiques et qu'on prend le temps de l'étude, ça n'a rien à voir. Vous me suivez? Eh bien, dans le monde de notre foi, dans notre religion, bien souvent nous utilisons un circuit à la place de l'autre et nous commettons des erreurs de raisonnement, non seulement à court terme mais à long terme, qui s'appellent des distorsions cognitives ou des biais cognitifs. C'est extrêmement simple à comprendre, mais ce n'est pas évident à déceler chez soi. Surtout sur des domaines très sensibles comme le domaine amoureux ou le domaine de la foi. On a du mal à se regarder agir. Je voudrais simplement commencer peut-être par le premier, qui est le biais de confirmation. Le biais de confirmation relève d'un besoin qui est le besoin de certitude. J'ai besoin de certitude. Par exemple, j'ai besoin, naturellement, quand je mets mes mains sur ce pupitre, de savoir qu'il ne va pas s'effondrer. J'ai besoin, quand je me lève, de savoir que la rue sera toujours devant moi. Donc, j'ai besoin de croire un certain nombre de choses pour pouvoir simplement fonctionner au quotidien. Mais cela peut engendrer une certaine tendance à ne retenir dans les différents faits qui me sont exposés que ceux qui vont conforter mon système de croyance. Et à laisser de côté les autres, ne pas les considérer ou bien les dénigrer. Passons directement au concret. Combien de fois ai-je entendu dans nos églises, ou combien de fois moi-même ai-je dit, ou cité des témoignages dans lesquels il se passe une catastrophe, la population est décimée ou très frappée, et il y a une personne qui n'est pas atteinte, et c'est qui cette personne? Est-ce que vous savez? L'adventiste? l'adventiste. Ou bien j'ai toujours un plaisir à entendre ces témoignages de personnes qui sont tombées malades, qui ont prié Dieu, et Dieu a répondu à leurs prières et elles ont été guéries. Et on aime collecter ces témoignages, et on aime les répéter, ce sont de beaux témoignages qui nous font du bien. Mais pour autant, est-ce que nous devrions laisser de côté tous les cas où des gens ont prié et n'ont pas été guéris? Notre président d'Union, Ruben, nous racontait l'histoire très frappante d'une petite fille dont le papa était mort. C'était un ancien d'église, très aimé, très apprécié, très active, très consacré, et qui a attrapé une maladie. Et l'église a prié, et le papa est malheureusement est mort quand même. Et quelques mois après, la petite fille va dans un camp de jeunesse, et ils devaient faire un jeu dehors, et il se met à pleuvoir. Alors bon, ils sont embêtés, ils ne peuvent rien faire, tout était prêt, ils étaient excités. Ils se mettent à prier, et au moment où ils se mettent à prier, la pluie arrête de tomber. Et cette petite fille, à ce moment-là donné, elle éclate en sanglots. Parce qu'elle dit, comment se fait-il que mon père, qui est notre père, qui était tout pour nous, qui amenait l'argent à la maison, qui était en plus à l'église investi, consacré, qui était souvent à l'église et pas chez nous, et on acceptait, comment sait-il que pour lui, Dieu n'a pas répondu aux nombreuses prières, et que pour que quelques gamins puissent jouer dehors, ils répondent. Est-ce que vous voyez le type de problématique que cela évoque? Le biais de confirmation, c'est retenir seulement Dieu a arrêté la pluie et ne pas retenir les autres. Cela nous amène à une religion qui est une religion qui ne tient simplement pas compte de la réalité et qui nous fait perdre en crédibilité. Parce que nous sommes entre nous, ce sont des choses que j'ai dites moi-même, que j'ai répétées, que Dieu nous protège, etc. Mais quand on va se confronter un peu à l'extérieur et qu'on dit, oui, il s'est passé, par exemple, j'ai appris, je crois que c'était au Chili il y a quelques années, il y avait eu un incendie épouvantable et la seule maison qui était restée debout dans tout un quartier, c'était la maison de l'adventiste. Est-ce qu'il n'y avait qu'un seul adventiste dans ce quartier? Personne ne pose la question. Et n'importe qui n'est pas adventiste dira, mais pourquoi Dieu protégerait la maison de l'adventiste et pas la maison des autres? Comme ces moines qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont célébré, ont fait des messes parce que leur ville avait été bombardée, la ville était complètement rasée, sauf le monastère. Et naturellement, par le biais de confirmation, on arrive à la conclusion que Dieu protège ses élus. Mais maintenant, sortez de votre système de croyance, discutez avec des non-croyants, avec des non-croyants sensés de préférence, des gens intelligents, et imaginez quelle vision ils vont avoir de Dieu. Toi, tu es croyant, je mets mes mains, je retiens les bombes. Toi, tu n'es pas croyant, je laisse les bombes tomber sur toi, tu l'as bien mérité. Imaginez l'image de Dieu qu'on dessine. Comme quoi, le biais de confirmation, non seulement il distord notre perception de la réalité, par nature même, mais en plus, il nous amène à dessiner une image de Dieu qui n'est pas une image équilibrée, comme l'écrivain de l'Épître aux Hébreux dira dans Hébreux 11, quand il parlera non seulement de tous les héros de la foi qui ont fermé la gueule des lions, qui ont éteint le feu, ou survécu aux flammes en tout cas, mais il va également parler de ceux qui ont été sciés, crucifiés, méprisés, assassinés, emprisonnés, non qu'ils étaient indignes, mais parce que Dieu avait pour eux un meilleur projet. Plus nous vivons en circuit fermé, plus ce type de biais nous amène à avoir une religion qui n'est pas en phase avec la réalité et qui n'est pas crédible. Un autre biais est le biais de croyance. Le biais de croyance est un biais dans lequel on ne réalise pas le caractère absurde d'un raisonnement, d'un développement, parce qu'on croit à sa conclusion. Alors, je vais, dans la mesure où ma réputation est déjà ruinée, je vais terminer de me ridiculiser en vous racontant comment est-ce que j'ai cru Vraiment, le billet de croyance a fonctionné et m'a fait perdre 18 euros. Donc j'ai vu sur YouTube un tutoriel, un petit mode d'emploi si vous voulez, hein, pour fabriquer un système qui génère de l'électricité gratuitement, avec des aimants qui font tourner une pale, un système avec où le magnétisme est censé faire tourner une hélice et produire avec une petite dynamo de l'électricité. Et comme j'ai quand même quelques notions de physique, je sais qu'il existe un principe qui est le principe de l'entropie, principe selon lequel qu'on n'injecte pas de l'énergie dans un système, à un moment donné, le système, il s'éteint, il s'arrête. Vous lancez une boule de pétanque par terre, au bout d'un moment, s'il n'y a pas quelqu'un qui chute dedans, la boule de pétanque, elle s'arrête. Et depuis la nuit des temps, le graal du mouvement perpétuel et de l'énergie gratuite et illimitée, c'est ce que tout le monde cherche. Donc je savais bien que le système, à cause de ces notions de physique, je savais bien que le système finirait par s'arrêter. Et que donc le tutoriel était faux. Seulement j'avais envie que ça marche un peu quand même. Et à partir du moment où j'avais envie que ça marche, et où la conclusion, j'adhérais à la conclusion, je n'ai pas vu toutes les failles du raisonnement. Donc j'ai acheté l'hélice, les aimants, 18 euros, et tout content, j'ai tout connecté, j'ai tout collé comme il faut, tout content, je tourne. Ça fait un demi-tour, ça s'arrête instantanément. J'ai trop. Dans mon pays, on dit Ababa. Ababa, ça veut dire idiot. Ababa. Évidemment que ça va s'arrêter parce qu'un aimant, c'est bipolaire. Ça va attirer d'un côté et repousser de l'autre. Donc mécaniquement, ça va s'arrêter. Tu le savais. Mais j'avais envie d'y croire. Et quand on a envie d'y croire, les erreurs de raisonnement ne nous apparaissent pas correctement. Au niveau de la foi, c'est la même chose. Peut-être, juste avant de revenir à la foi, un deuxième exemple. Qui a reçu parmi nous, je voudrais voir des mains, qui a reçu un email, soit d'un millionnaire, de la veuve d'un millionnaire qui ne sait pas quoi faire des millions, soit de la loterie espagnole ou roumaine, soit du fisc qui veut vous donner de l'argent? Qui a reçu ces emails, un email comme celui-là? Je peux voir? Merci. Je ne vais pas demander qui y a cru, ce serait trop embarrassant. Mais le premier que j'ai reçu, c'était la loterie espagnole qui m'octroyait généreusement 12,4 millions d'euros. Pas mal, non? 12,4 millions d'euros. Et donc, dans la mesure où je ne joue pas au loto et que je n'étais pas allé en Espagne, je ne me suis pas posé de questions. Mais je me suis demandé, pour une fois, je n'ai pas été un ababa. Je suis allé voir sur Internet qui pouvait se laisser avoir. Donc j'ai trouvé différents types de populations. Alors des gens très simples, comme cet homme, très peu instruit, comme cet homme qui écrit son message truffé de fautes d'orthographe et de syntaxe, mais dont on comprend le sens général. Et le sens général, c'est qu'il a reçu cette promesse de quelques millions. Il détestait son travail, détestait son patron. Il a été au travail, il a insulté copieusement son patron. Il a claqué la porte, il est parti. Et puis il dit, je ne comprends pas, l'argent n'arrive toujours pas. Il me demande de leur envoyer 3 000 euros pour les frais de douane, des millions. Et en plus, mon patron ne veut pas me reprendre, je ne comprends pas pourquoi. Donc là, on se dit, bon voilà, le péché a quelque peu incapacité notre potentiel intellectuel. Voilà quelqu'un qui est un ababa, au moins comme moi, sinon pire. Bon. Mais en fait, ensuite, on réalise qu'il y a des avocats, des médecins, qu'il y a des ingénieurs qui se font avoir, et ils se font avoir pourquoi? Parce qu'ils commencent à réfléchir à ce qu'ils vont faire avec l'argent. Et quand ils ont commencé à réfléchir à ce qu'ils vont faire avec l'argent, quelque part, c'est circuit rapide qui prend le pas, ou les émotions qui prennent le pas sur le raisonnement, circuit lent, analyse. Pourquoi donc une veuve du Nigeria voudrait me donner spontanément 300 millions d'euros à moi qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam? Circuit lent. Alors certes, ma calvitie est irrésistible, j'en ai bien conscience, mais l'a-t-elle seulement vue? Cela, ce biais de croyance, a faussé certains raisonnements. Fut une époque, par exemple, à Collonges-sous-Salève, et je ne parle pas d'une petite église de province complètement perdue, hein, je parle de Collonges-sous-Salève. À Collonges-sous-Salève, à une époque, on a interdit aux hommes de se raser. Ce sont des professeurs de théologie qui me racontent ça. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme étant barbu, Dieu est donc barbu. Vous voyez donc le caractère syllogistique, hein, vous voyez le syllogisme. Hein. Et si je me rase, je ne suis plus à l'image de Dieu, mais à l'image de Satan. Pour ma part, dans le doute, j'ai choisi un entre-deux prudent. Ne prenons pas de risques, on ne fâche personne. Vous voyez quel genre d'absurdité on peut véhiculer, parfois dans les églises et même dans les institutions, parce qu'on croit dans quelque chose et parce qu'on croit dans une conclusion, on ne mesure pas le caractère absurde du développement. Un autre effet, je vais accélérer un peu, est l'effet de halo. L'effet de halo, c'est très très simple. J'étais très énervé quand, au collège, un garçon faisait la même blague que moi, mais là, tout le monde riait parce qu'il était grand et beau. Ça vous est jamais arrivé, ça? C'est très énervé. Ou mesdames, ça ne vous agace pas de voir de superbes créatures susciter les rires approbateurs et les hochements de tête et les yeux écarquillés d'hommes alors qu'elle ne dit rien d'extraordinaire et qu'elle ne fait rien d'extraordinaire? Effet de halo. Ou bien, parce que quelqu'un s'appelle, disons, moi j'en suis resté à Michael Jackson, mais à notre époque on dirait qui? Britney Spears, non, je crois que c'est assez vieux aussi déjà. Enfin bref, une célébrité quelconque. Mbappé, Kylian Mbappé. Que la moindre phrase qu'il va dire va être reprise, répétée, et que le style vestimentaire, bref, effet de halo, qui fausse le raisonnement. Pour ma part, je m'applique partout où je vais, où je ne suis pas connu, à ne jamais dire que je suis pasteur. Je ne dis même pas que je suis adventiste, je m'assieds dans une église, je discute comme tout le monde. Et dans certains cas, c'est intéressant de voir la différence. Je dis quelque chose, les gens n'y prêtent pas trop attention. Si parfois je dis je suis pasteur et j'occupe telle responsabilité ou telle responsabilité, les propos ne sont pas entendus de la même manière. C'est très curieux, non? Si quelqu'un est président de telle institution, je ne sais pas, de la fédération, de la conférence générale, ce qu'il va dire ne va pas avoir le même poids. Effet de halo. Pourtant, Jacques dira lui-même que Jésus-Christ est exempt de toute acception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Et il donne cet exemple de l'homme riche qui rentre dans une église, on lui dit, tiens, toi, mets-toi là à la place d'honneur, et on va écouter attentivement tout ce que tu dis. Et le pauvre qui rentre, on lui dit, toi, mets-toi là en dessous de mon marchepied. Ce biais est un biais puissant. Et le Seigneur nous invite à le suivre lui, à ne suivre personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un ancien pasteur ou est réputé ou est célèbre ou a telle compétence ou tel diplôme qu'il va avoir bon en tout, tout le temps, sur tous les sujets. Examinons toutes choses, abstenons-nous du mal sous toutes ses formes, diront les Écritures. L'illusion de savoir, un autre biais, se fier à des croyances erronées pour appréhender la réalité et prendre des décisions. Saul de Tarse, avant de devenir l'apôtre Paul, fonctionnait à plein régime dans l'illusion de savoir. En fait, c'est un biais particulièrement puissant parce qu'il joue sur plusieurs registres, notamment le sentiment de supériorité sur autrui. J'ai déjà discuté avec certaines personnes de certains mouvements religieux que je ne vais pas citer parce que je ne veux viser personne et qu'on est tous concernés au même titre. Vous avez des gens, quand vous discutez avec eux, la manière dont ils veulent partager la foi avec vous, c'est vertical. Je suis là, toi tu es en bas, je vais du haut de ma grâce déverser mon savoir sur toi. Et toi, tout ce que tu as à dire, c'est merci. Merci. Et si jamais tu as le malheur de vouloir poser une question ou contredire ou apporter une version différente, on te répond, qui t'inspire cette question? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'inspire cette question? Surtout quand ils sont coincés en face. Hein. Une journaliste a passé 9 mois avec des intégristes religieux. Des gens dangereux qui font la guerre, etc. Parce qu'elle voulait comprendre. Elle voulait comprendre. Donc elle a mis sa tenue, elle s'est fondue dans la masse. Elle a vécu 9 mois avec eux. Au bout de 9 mois, elle fait une synthèse. Elle dit, ces gens-là ne s'intéressent pas à la religion. Ils ne s'intéressent pas à la beauté de leur religion, à leur texte sacré. Ils ne se documentent pas, ils ne discutent pas. Ils fonctionnent à plein régime avec l'illusion de savoir. Ce qui compte pour eux, c'est le sentiment d'avoir la vérité ultime, ce qui les place au-dessus des autres. J'ajouterais pour ma part qu'il n'est pas besoin d'être un intégriste religieux pour avoir ce fonctionnement-là. Que chacun regarde à sa propre porte. Seulement, quand vous avez des communautés ou des individus qui sont dans un système religieux essentiellement pour avoir le sentiment de faire partie d'une petite élite spirituelle, bien, c'est un objectif qui est rempli. Donc leur potentiel de croissance est limité. Ils ont déjà ce qu'ils veulent. Pourquoi se remettre en question? Pourquoi travailler sur soi? 2 derniers biais, il y en a 28, mais j'en fais que 5 ce matin. 2 derniers biais que je confonds en un seul, le biais de conformisme et le biais de statu quo. Qui peut m'expliquer au fait pourquoi est-ce que quand les officiants arrivent, nous mettons à genoux, les officiants, et vous, l'Assemblée, vous restez debout. Est-ce que quelqu'un sait? N'ayez pas peur, dites la réponse, moi je ne sais pas. Vous ne savez pas? Moi non plus. Et donc, quand j'étais jeune pasteur, j'avais 25 ans, et donc je n'avais pas l'habitude, parce que je n'avais pas tant côtoyé l'église adventiste que cela, et donc on se met à genoux et je vois que tout le monde reste debout. Bon, je pose la question à mon directeur de stage. Il ne sait pas trop. Je pose la question à des présidents de fédération à droite, à gauche. J'investigue un peu. Personne ne sait. Mais dans la mesure où on le fait tous, moi je préfère le faire. On ne sait jamais. Jouons la prudence. Biais de conformisme. Cela nous amène, à répéter des comportements, des traditions, sans que le sens soit nécessaire. Vous voyez, le sens est quasiment optionnel dans ce genre de fonctionnement. Est-ce que vous savez que les éthologues, les gens qui étudient la psychologie animale, disent que l'homme est l'animal le plus mimétique? On apprend tout par mimétisme. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que parfois nos religions sont des répétitions et des récapitulations de discours, de comportements? Et puis aussi, dans la mesure où on a toujours fait comme ça, vous avez jamais entendu ça? On a toujours fait comme ça. Une fois, j'ai fait une expérience, mais ne le dites à personne. J'ai fait une expérience dans une petite église où je générais moi-même l'ordre du culte. J'ai inversé le temps de lecture biblique et le temps d'offrande. C'est intéressant de se rendre compte qu'après le deuxième ou le troisième chant, automatiquement on entend les pièces. Il y a des choses qui sont en mode automatique, circuit rapide. Et les gens sont tout perturbés et tout dérangés quand ça ne fonctionne pas comme d'habitude. On a toujours fait comme ça. Ça n'est pas une mauvaise chose. Dans pas mal de domaines, ça peut être utile, le conformisme et le statu quo. Dans le domaine de la foi, cela peut se révéler particulièrement désastreux. Et parmi les choses, il y a beaucoup de choses, mais je voudrais n'en citer qu'une. C'est que parmi nos croyances, nous répétons sans cesse que lire la Bible et prier sont les 2 piliers de notre religion. Seulement, au bout d'un moment, avec les problèmes de famille que nous avons, avec les problèmes de couple que nous avons, avec nos jeunes qui quittent les églises, avec le peu de succès que nous rencontrons bien souvent, au bout d'un moment, il faudrait se demander est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour améliorer la situation. Alors je crois qu'il faut lire la Bible, sinon je ne serais pas là. Je crois qu'il faut prier, sinon je ne serais pas là. Mais pourquoi on ne pourrait pas ajouter d'autres croyances, comme le fait de se cultiver? Hein? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas lire des livres? Des livres sur les couples. Nous, avec Laetitia, ça nous a sauvé la mise à plusieurs reprises, et je n'ai pas honte de le dire, je ne suis pas fier de le dire non plus, enfin ni honte ni fierté, mais simplement bénéficier de ce que Dieu a pu donner à d'autres à l'extérieur de la sphère religieuse, ça nous a sauvé la mise à pas mal de reprises. Au niveau éducatif, il y aurait moins de drames familiaux si on se documentait plus, si on lisait plus, si on se cultivait plus, frères et sœurs. Lire la Bible, prier, si ça suffisait, on le verrait. Mais lire la Bible et prier, ce sont les piliers qu'on doit nourrir également. Et cette nourriture, elle va se chercher partout où elle se trouve. Vous savez, j'ai lu un livre qui s'appelle « L'intelligence émotionnelle » que je recommande à tous. Dans ce livre, j'ai appris quelque chose que j'ignorais complètement, c'est qu'un enfant qui fait d'un trois-fois-rien un drame, c'est un enfant dont le cortex préfrontal n'est pas mature. Et le meilleur moyen de l'aider à maturer son cortex préfrontal, c'est de le rassurer, de le câliner, sans mettre l'emphase sur son problème, mais simplement lui donner de l'amour. J'ignorais complètement cela. Moi, je fonctionnais à la vieille école. Mais c'est rien, ça, t'es un homme. Ce sont les filles qui pleurent. L'ignorance. L'ignorance. Et j'avais beau être pasteur, beau avoir 45 ans, j'ignorais cela. Et quand, dans les Écritures, on lit « Parents, n'irritez pas vos enfants », on a un principe générique, mais on n'a aucun mode d'emploi. On n'a aucune information technique. N'est-ce pas à nous d'aller les chercher, ces informations techniques? Biais de conformisme, quand il nous enferme dans des croyances de base, ça peut être un drame. Alors, il est facile de comprendre dès lors que quand on vit en circuit fermé, quand on se contente de répéter les croyances, combien de fois ai-je eu cette discussion avec des collègues, c'est des discussions de loisirs, si vous voulez, pour se distraire, sur par exemple le canard. On dit que la Bible interdit le canard. Et on le croit et on le répète, et puis finalement on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Mais on a répété, oui, oui, c'est dans la Bible, oui, oui, il y a les pieds palmés, puis on cherche les pieds palmés dans la Bible et puis on ne trouve pas. Puis on cherche le canard et puis on ne trouve pas. Vous voyez un petit peu? Ou bien, on a parlé ce matin, et on a eu une école du sabbat, merci, très intéressante. On parlait d'Artaxerces, ce roi. Moi-même, j'ai étudié un petit peu à Coulonges, j'ai quelques souvenirs, vagues. 457, le décret, la reconstruction, etc. Combien de fois est-ce que j'ai répété et enseigné cette chaîne prophétique des 2300 soirs et matins et de 70 semaines, sans même être allé vérifier moi-même, dans plusieurs bouquins d'histoire, parce qu'il faut croiser les sources, qui était cet Artaxerces? Quand est-ce qu'on le date exactement? Est-ce que notre interprétation, elle est solide historiquement? Ou est-ce que je me contente de répéter ce qu'on m'a enseigné? Alors quand la foi se replie pour elle-même, elle, et à cause de ses biais cognitifs, elle perd de son sens. Elle perd de sa saveur et elle se transforme en une suite de discours et de rites sans queue ni tête. Ce n'est pas parce que Dieu nous a confié un très beau message, très profond, qu'il n'a rien confié à personne d'autre. Est-ce que vous me suivez? J'ai réalisé cela pleinement, je crois en tout cas, quand le prix Nobel de la paix a été attribué à une association qui lutte contre les mines antipersonnelles et qui se voue à déminer. Ça m'a forcé à me demander Et toi, tu fais quoi exactement du haut de ton église, du reste, de ta vérité que tu as? Qu'est-ce que tu fais exactement pour amener un peu de lumière, de paix et de mieux être et de mieux vivre dans ce monde? Alors, heureusement, nous avons Adra. Merci à Adra. Parce qu'on peut dire qu'on contribue. Il y a aussi le système éducatif dans pas mal de pays. L'église adventiste, les écoles adventistes sont très cotées partout dans le monde. Il y a les hôpitaux, il y a certains styles de vie. On ne dit pas qu'on n'a rien à apporter, mais est-ce qu'on va se contenter de cela? Et puis nous-mêmes, ici à Damari, quelle différence faisons-nous exactement dans ce quartier? Qu'est-ce que nous apportons? Qu'on réalise que ce n'est pas parce que Dieu nous a parlé qu'il n'a parlé à personne d'autre, alors les biais qui nous maintiennent dans une religion stérile et un petit peu répétitive, un petit peu ennuyeuse, la religion carcan, la religion qui nous ligote, bien, on commence à aller se nourrir, on lit, on discute avec les gens, on écoute les autres. Moi, par exemple, j'ai plaisir à écouter des athées, pas des athées de base, hein, pas des athées qui crachent sur la religion stupidement, hein. Non, non, des athées raffinés, des athées intelligents, des athées qui argumentent, des athées qui ont étudié. Parce que quand on est confronté à ces gens-là, vous avez intérêt à savoir pourquoi vous croyez ce que vous croyez. Quand on est entre nous, c'est tellement facile. Le Seigneur est bon. Oui, c'est le samedi et pas le dimanche. Hein? On tourne en rond avec nos petites croyances, on est confortable. Quand vous êtes face à des gens qui croient différemment, mais qui croient d'une manière intelligente, d'autres croyants, ou des agnostiques, ou des athées, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas comme nous que Dieu ne leur a rien donné. Et quand on ouvre son esprit, qu'on envisage l'évangélisation et le partage, non seulement d'une manière verticale, mais également d'une manière horizontale, alors nous devenons, je le crois, des chrétiens, des ouvriers moins inutiles. Notre foi prend du sens. Nous transmettons de la profondeur et pas simplement des rites à nos enfants. Surtout que quand les enfants, vous savez, les enfants, ils grandissent, hein, à un moment, ils sont petits, ils sont avec nous. Au bout d'un moment, ils sont plus grands que nous, plus intelligents que nous, ils s'en vont, ils font leur vie. Si on ne leur a pas transmis de profondeur, il ne restera strictement rien de leur religieux. Alors, je voudrais simplement, en guise de conclusion, souhaiter que chacun d'entre nous ne reste pas au petit lait. Le petit lait du conformisme, le petit lait du biais de confirmation. Je ne retiens de la réalité que ce qui va conforter mon système de croyance. Tout ce qui me met un petit peu en danger, qui me remet en question, je l'écarte soigneusement. Ça vient de Satan. C'est Satan qui a placé les os de dinosaures pour nous induire en erreur. On ne va pas aller loin avec ce genre de raisonnement. Comprenez? Nous avons besoin de grandir et de progresser sans cesse. Ne croyez-vous pas que des familles chrétiennes matures et équilibrées, que des couples qui se sont documentés, qui ont lu des bouquins, qui ont participé à des séminaires, ce sont des couples qui passent mieux au travers des épreuves et qui grandissent. Que des chrétiens qui mettent de côté les préjugements et les circuits rapides de jugement et de prise de décision seront mieux à même d'accueillir, qu'il y aurait moins de conflits si on prenait le temps d'aller au fond des choses. Que le Seigneur fasse avec notre coopération pleine et entière de nos familles, de nos églises, des lieux de clarté pour nos enfants, pour nos amis, pour tous ceux qui viennent, des lieux de lumière et non pas des lieux d'obscurantisme. Amen.